100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Vous en avez assez de faire des photos moches? Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits, on vous tient au courant des dernières nouvelles en matière de photographie et on vous suggère des sites ou des photographes à suivre. Tous les samedis, 13h.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Peuple de l'UQAM, on dirait que le cinéma Quartier Latin a créé une promo juste pour vous. Vous vous souvenez du tarif étudiant à 8,99? Ben maintenant, c'est valide tous les jours. Tant qu'à procrastiner cette session, faites-le sur grand écran. À l'affiche en février et mars, Lego Batman le film, Logan, ça sent la coupe et La Belle et la Bête. 8,99, 7 jours sur 7 avec carte étudiante. Jusqu'au 31 mai seulement, à la billetterie du cinéma Cinéplex Quartier Latin. Cinéplex, voyez plus grand.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 133 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais j'ai la misère avec mes hard I, mes hard R aujourd'hui. Surtout parce qu'il n'y en a pas dans le titre du thème aujourd'hui que nous allons aborder. Buffy the Vampire Slayer. C'est un gros épisode, en fait, c'est un épisode assez important vu le 20e anniversaire du personnage, mais en fait pas tout à fait 20e anniversaire du personnage, 20e anniversaire de la télésérie, puisqu'on se rappelle bien que Buffy a déjà été interprétée par Kirstie Swanson dans un film avec Pee-wee Herman, mesdames et messieurs. Ok, je me suis dit que c'était le fun de remémorer ça. Quand on avait initialement lancé le projet de parler de Buffy, on s'est dit, il me semble que ça serait intéressant de le faire, et il me semble qu'il y aurait plein de monde qui voudrait en parler. Puis c'est drôle parce que ça n'a pas été tant que ça, mais suite à des grandes déclarations, on s'est retrouvé à avoir une tablée assez importante, et je vais commencer avec une question pour tout le monde en même temps. Est-ce que vous considérez, parce que j'ai fait ça très longtemps dans ma vie, je me suis battu contre beaucoup de gens dans mon environnement, à la fois intellectuellement et physiquement, pour leur faire écouter la télésérie, est-ce que vous considérez que Buffy devrait être une écoute obligatoire pour tout le monde?
Ben moi, je peux commencer si tu veux, parce que je vais témoigner, comme ça, à la barre. Bonjour, Sandrine Galland, ici, au micro. Je voulais juste vous dire que...
Ma présentation individuelle était après.
Ben je m'attendais à un oui,
retends ça, mais...
Est-ce que tu veux que je me lance là-dessus?
Je t'en prie.
Parce que moi, je suis une latecomer. On en parlait qu'il y avait beaucoup de latecomers de Buffy. J'y suis arrivée dans un séminaire de doctorat, alors qu'une collègue faisait une présentation sur la survivance dans Buffy.
Nice.
Et je me suis dit, oh... Ok, je m'intéressais à tout ce qui était personnage principal féminin et tout ça, donc je me suis dit, peut-être que je devrais aller voir. En ce moment, à cette époque, moi, je travaillais sur The L Word, donc on était complètement ailleurs. Et là, je me suis dit, check bien ça, c'est genre Degrassi ou le loup-garou du campus. Tu sais, genre de truc qu'il y a juste les adeptes qui aiment encore, mais qui vieillent mal. Mm-hmm. Et chance pour moi, c'était sur Netflix.
Ooh.
Et là, depuis 2011, je l'ai écouté 3 fois.
Ouais.
Donc, je dirais que tout le monde devrait écouter Buffy.
Exactement. Y a-tu d'autres gens, ou y a-tu des gens qui diraient l'inverse?
Ben, je dirais que c'est recommandé, mais je dirais pas que c'est un programme d'endoctrinement qu'on devrait imposer tel un régime socialiste.
Mais moi j'y ai essayé.
D'imposer ça à des gens?
Oui, ça n'a pas toujours bien marché. Il y en a beaucoup qui décorachent assez vite dans la première saison, peut-être. Souvent, je leur conseille de sauter la première saison au début.
De sauter en haut?
Oui, puis de revenir plus tard quand ils vont être déjà accrochés.
Je suis d'accord.
OK, moi, je suis dans la persévération. Moi, je ne permettrai pas que quelqu'un passe pas la première saison. C'est étrange. C'est drôle, les seules personnes que j'ai pas réussi à convaincre, c'est ma famille immédiate, donc ma mère et ma sœur. Mais à part de ça, ça a comme super bien passé. La deuxième question, en fait, qui va pouvoir vous présenter correctement, ben on va commencer avec Hélène Després. C'est qui ton personnage préféré?
Comme ça, sans préparation.
OK, ben regarde, je vais te laisser y penser. J'ai toujours eu une association, bonjour, mon nom est Jean-Michel Berton et j'anime. Depuis The Zeppo, j'ai quelque chose avec Xander. Vraiment, depuis The Zeppo. Me, I like the silence, c'est une phrase, c'est une des plus importantes citations connues de la télévision. Me, I love the silence, ça peut être, c'est un mantra. Je l'ai tatoué quelque part sur le corps, devinez où. Mais non, c'est une blague, je l'ai pas du tout. C'est pas le cas.
Je suis contente que quelqu'un nomme Xander.
Ouais?
Ouais.
Pourquoi?
Ben, je pense qu'on l'oublie. Ben, que c'est typique. Je pense qu'il est fait pour qu'on l'oublie souvent, mais je pense qu'on l'oublie par le fait même souvent.
Il y a un travail sur la présence absente, la fiabilité chez le personnage.
Que je trouve la normabilité, je sais pas comment dire ça.
C'est vrai que c'est le normie.
Qui travaille d'ailleurs dans deux épaules.
Oui, beaucoup.
Ouais.
C'est drôle parce que moi, en fait, ça serait le seul personnage que je te dirais que j'aime moins.
Ouch!
Oui, je le sais. Mais c'est de la manière qu'il est construit. Je te dirais que dans Deux Épaules, il est intéressant. Mais c'est par la suite que son utilisation n'est pas si normale que ça, en fait. C'est qu'on le voit toujours sauter des étapes. Je veux dire, il passe de celui qui passe tout son temps dans le sous-sol de ses parents à celui qui est chef d'entreprise ou presque, qui devient la morale du groupe. Je sais pas, j'ai beaucoup de problèmes avec la manière dont ils l'ont construit, en fait.
Il cherche beaucoup dans la série.
Oui, puis il se trouve pas tellement. Ou il se trouve d'une manière qui m'a pas beaucoup intéressée.
Par le soutien aux autres, mais principalement.
Par le soutien et le jugement de ce que font les autres aussi.
Ben, c'est surtout ça qui m'énerve,
Xander, il est très prompt à... surtout dans les saisons tardives, il est très moral par rapport à sa propre rupture avec Anya. Quand il ressurgit, il passe vraiment beaucoup de temps à annoncer qu'il a mal agi. Justifier aussi son action, là, mettons, mais il passe quand même beaucoup de temps à dire « je sais, c'était vraiment pas correct ce que j'ai fait ». Et après, il se permet quand même souvent, je veux dire, c'est le plus ardent défenseur de la pureté de Buffy, là. Il a sa jalousie par rapport aux amoureux de Buffy, mais il y a aussi, finalement, le seul amoureux de Buffy qui accepte un peu, c'est Riley, parce qu'il est plus normal. Mais Xander, je veux dire, il y a des scènes d'opposition, autant à Angel qu'à Spike, qui sont absolument virulentes, puis finalement... On sent quand même le jugement de « tu devrais pas y trouver pour toi, c'est un bad ».
Okay,
il y a un côté paternaliste là-dedans aussi.
Il y a un côté paternaliste. C'est pas le personnage le plus féministe de Buffy, mettons.
Ah, OK. Vous avez le droit de pas répondre à la question, parce que ça a l'air que ça va venir avec un lot de jugement incroyable.
Mais non! Mais t'as raison qu'il est intéressant à l'époque de Zeppo, puis dans les premières saisons, il était intéressant.
Oui.
Ouais, absolument.
Non, puis il est pas non plus dépourvu d'intérêt. C'est pas parce qu'il est rushant qu'il est dépourvu d'intérêt. C'est souvent une règle qui s'applique dans Buffy.
Ouais. Donc, Roxane Desjardins, je te renvoie la question. Alors, toi?
Allô? Je pense que je dois répondre Willow.
Ben oui, c'est ça. Là, je vois tout le monde qui hoche la tête. Ouais. Je suis comme... Sauf Hélène.
Non, moi aussi.
Ah, toute la gang.
Mais Willow, c'est tout simplement, elle a toutes les meilleures répliques. Elle a la candeur et la férocité. Elle a clairement le développement de personnage le plus intéressant.
Ouais, de loin.
Ouais. Si tu prends Buffy, seulement Buffy, ouais. Je défends beaucoup Charisma Carpenter.
Oui.
D'Angel. Mais il y a Wesley aussi dans Angel.
Ah, ben Wesley, son personnage fascinant dans Angel, mais dans Buffy, on le voit pas se développer.
Non, c'est ça. Il est très drôle.
Très immature, comique, oui.
Ouais, exactement.
Ouais, mais Willow, oui, puis c'est aussi finalement parce que c'est la plus drôle puis la plus candide, c'est aussi, je pense, parfois la plus émouvante là. Quand Willow a de la peine, que je vois quelqu'un pas être un peu tout croche puis avoir un nœud dans la gorge.
Ah, ça se passe pas toujours bien quand elle a de la peine.
Non.
et je sais pas, est-ce que Sandrine Willow all the way?
Ben Willow, mais pour répondre différemment, je pense que sans rien pour l'appuyer, j'aime particulièrement Anya. Simplement parce que je la trouve absolument drôle, mordante, déjantée, puis ça me fait du bien. Mais je veux dire, en termes de personnage, elle était quand même pas très développée, ça revient tout le temps. Mais je veux dire, j'aime l'écouter parler.
OK.
Voilà.
Jean-Sébastien?
Ben, moi aussi, c'était Willow, comme par rapport à l'évolution du personnage, puis le fait que c'est une self-made girl qui part d'apprendre le hacking pour aller apprendre la sorcellerie, puis tu sais, vraiment, tout ce qu'elle réussit à les tirer, à porter à l'équipe, c'est parce qu'elle a travaillé fort pour y arriver. Ouais. Mais si vraiment tu veux qu'on se départage un deuxième choix, je vais dire Giles. C'est une belle figure de père. Je trouvais que c'était intéressant la manière dont il était apporté.
Ça en est tout ému.
Oui, la façon dont il était apporté dans la série comme un père compensatoire pour une fille qui a été élevée par une mère. C'est bien, ils l'ont bien amené, le personnage, puis il est toujours consistant, intéressant, attachant.
Et ce coup de batte de baseball quand il devient le Ripper, ça n'a pas d'air. Je me rappelle, c'est intéressant parce que Buffy, pour des gens qui ont grandi avec, il y a aussi, on est connecté à plusieurs. Ben là, je parle au homme, mais je parle essentiellement de moi, mais tu sais, il y a des souvenirs très particuliers qui émergent parce que on a grandi, puis les fans de la télésérie ont évolué en même temps. Le coup de batte de baseball de The Ripper, c'est mon premier gif. Le premier gif animé que j'ai vu de ma vie, c'était cette espèce de motion de enlever le batte de baseball de la personne, passer par-dessus la tête, les caméras sont pas activées là, malheureusement, mais passer en mettant le batte de baseball dans le feu sur la table de billard et en donnant le coup avec. Je me rappelle de ce premier gif animé-là. C'est à ce point-là que Buffy fonctionne technologiquement et mimétiquement aussi. C'est incroyable. C'est aussi... Hélène, tu voulais-tu faire un autre tour pour choix de personnage? Oh, tu peux revenir. Hey, on peut conclure avec ça. Hein. Moi, j'ai zéro problème.
Par rapport à Willow, je trouve qu'on se rend compte à quel point elle est intéressante quand elle débarque dans Angel.
Oui.
C'est quand on voit la distance...
Willow?
Oui, parce que Willow, elle a fait une apparition dans Angel pour venir ressortir Angel de son état d'Angelus qui a été replongé. Puis on voit tout de suite le décalage entre le style d'écriture de Buffy puis d'Angel à travers son vocabulaire, sa façon de parler, son humour, tout ça. Puis ça apparaît tout de suite par la distance, tu sais. Puis c'est là que ça me fait réaliser à quel point il avait réussi à créer deux univers qui n'étaient pas si compatibles que ça, en fait. Puis, pourtant, dans le même univers diégétique, avec les mêmes personnages, mais pas du tout compatibles parce que l'humour ne fonctionne pas. Il y a vraiment un vrai décalage, puis ça montre à quel point c'est intéressant.
C'est le ton qui est différent.
Oui, absolument.
Le ton est beaucoup plus sombre, beaucoup, beaucoup plus sombre dans Angel.
Oui, puis pourtant, il y a des saisons qui sont encore plus...
Il y a un épisode de marionnette.
Oui, c'est ça. Il y a quand même des saisons qui ont essayé de justement reculer tout ça, puis de retomber un peu plus... dans la légèreté, mais ouais, il y a quelque chose. Puis il y a un humour aussi dans Angel, c'est juste pas le même genre d'humour, mais ouais, je trouve ça vraiment... Puis Jazz, ce qui est intéressant aussi, c'est dans Ben Candy, en fait, que tu vois la construction de retour à l'adolescence des années 60-70, là, c'est vraiment... Ouais, c'est la construction par opposition dans Buffy qui est toujours intéressante, justement.
Oui, puis on a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Un des aspects qui est très intéressant avec le texte qui est Buffy, c'est que la majorité des études sur la culture populaire ont commencé dans les Buffy Studies. Il y a une très, très, très grande tradition aux États-Unis de Buffy Studies, puis plusieurs des acophones partent de là. Moi-même, je suis parti de cette manière-là. C'est un texte qui est extrêmement riche. Et bon, on en parlait avant de faire l'émission. Est-ce que ça vieillit mal? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont fait mieux que Buffy depuis? Personnellement, moi, j'ai pas vraiment l'impression qu'un texte plus riche à la fois en culture populaire ou à la fois pour des récits adolescents. Là. Il n'y a rien de plus riche que Buffy. Mais bon, ça, c'est un sujet, somme toute, très personnel. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup à faire avec le texte. Fait que la joke au début en disant, tu sais, on a juste une heure, va finir par être un problème. On a beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est comme épouvantable. Mais c'est tellement un défi à laquelle on s'attelle beaucoup ici à Pop Stock. Il y a, je ne sais pas si tu voulais commencer en parlant de...
De la promotion du savoir et de l'information pour faire face à l'adversité.
Ça tombe très bien,
donc,
ça.
Donc, tout à l'heure, je mentionnais que un de mes personnages que j'ai bien aimé, c'est Rupert Giles. Et puis, la bibliothèque, qui est leur lieu de rassemblement pour les premières saisons, et qui est aussi l'endroit où on voit qu'ils ont besoin, que Giles et les autres Scoobies ont besoin d'accéder à de l'information. Et le savoir est présenté comme une des clés pour faire face à l'adversité, pour résoudre des problèmes. Chose qui n'était pas obligatoire dans une série sur les vampires et les démons. Ça, il y aurait pu avoir une toute autre tangente, mais ils ont décidé d'amener un côté détective, d'amener un côté... Moi, en tout cas, comme jeune adulte qui regardait ça, je trouvais ça intéressant de dire, ah ben, finalement, le fait qu'il passe, puis il mentionne plusieurs fois le personnage de Jazz et les autres, quand ils ont pris la peine de passer une nuit ou des heures et des heures dans les livres, ils disent, ben regarde, là, on l'a cette information-là, mais il a fallu qu'on bûche. Donc, il y a le savoir, mm-hmm. mais il y a aussi le travail. Et je vais faire le lien, là. Combien de fois c'est expliqué à quel point elle s'entraîne, Buffy, malgré qu'elle a des pouvoirs surnaturels, malgré qu'elle est choisie par le destin, ça lui fait pas une exemption de devoir s'entraîner, travailler avec Jazz, qui est son coach, finalement, et qui l'appuie de toutes sortes de façons. Mais je vais vous passer la balle sur ça, parce que je vais pas aller plus profond pour l'instant.
Ben, sur le savoir, c'est intéressant parce qu'on a tout le passage au numérique aussi dans Buffy. Parce que, ben, en fait, il est même mis en scène comme une crise existentielle pour Giles, c'est-à-dire qu'on a ce moment où la bibliothèque au complet doit être numérisée, où Willow est mise à contribution, puis il passe des nuits complètes à numériser toute la bibliothèque au plus grand désespoir de Giles. Puis c'est là qu'arrive le personnage de Jenny Calendar qui fait le lien, en fait, qui est assez intéressant parce qu'elle a un savoir qui est ancestral, traditionnel, mais aussi un savoir du numérique, un savoir du web qu'elle va transmettre à Willow. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans Buffy où il y a un vrai passage, mais qui se fait mal, en fait. Comme dans le réel, ça s'est pas fait, en fait, comme lettre à la poste, ça, c'est clair. Parce que après, si on continue dans la série, il y a Willow qui finit par... tu sais, qu'on la voit souvent sur son ordinateur, même qu'à certains moments, on la voit utiliser sa magie pour augmenter les capacités de son ordinateur. C'est toujours très drôle. Puis on la voit tout le temps aller dans des cafés Internet pour chercher la base des plaques d'immatriculation. On la voit quand même accéder constamment au web, alors que Buffy est coupée de la bibliothèque, est coupée de ce savoir livresque-là parce qu'elle n'y a plus accès. C'est par exemple après la destruction... Ben, c'est sûr que après la destruction de l'école, il y a un... C'est transféré à la Magic Box, mais après la Magic Box, il y a un vide. Tous ces livres-là sont disparus, en fait. Après la destruction à la fin de la saison 6, il n'y a plus de savoir livresque dans Buffy.
Mais elle a un accès direct.
Il y a le Council aussi au début de la saison 7 qui explose. Il reste toujours des livres miraculeusement sauvés. Les bibliothèques se recomposent aussi un peu magiquement dans... Magiquement, mais c'est des bibliothèques magiques, là, remarque.
Ben, ils ont de la difficulté parce que le seul livre important qu'ils trouvent, c'est celui qui finit par être coupé en deux, tu sais, par les scies. Donc, il y a quelque chose du livre qui réussit pas à prendre dans la dernière saison, non? Je sais pas, il me semble qu'il y a...
Il y a quand même des documents qui servent, les documents que Willow et Jared vont soutirer au FBI. Ouais.
Il y a ça aussi, c'est qu'après, je sais plus, ils arrivent quand, là, nos fameux soldats, mais on dirait que le savoir est transféré
saison
aussi.
Saison 4.
Ouais. C'est ça, hein, saison 4. Mm-hmm. C'était 5, ils arrivent rapidement 4, quand même. Hein.
Ouais. Mais ils repartent aussi vite. Là,
oui,
mais...
c'est ça. Puis après, ils reviennent ponctuellement. Ouais. Mais c'est ça, après, c'est vrai que le numérique se perd un peu, puis après, j'imagine qu'ils l'ont transféré dans cette espèce de super intelligence.
Adam, là.
Oui, ouais, c'est ça, dans l'espèce de connaissance totale et mais surveillance.
Le savoir de la fin, en fait, de la hache, tout ça, en fait, il est de l'ordre du non-écrit parce qu'il prédate l'écrit. Donc là, on est vraiment... Il y a juste un site web qui existe, d'ailleurs. Tu sais. Ouais,
ben, comme le Chosen One aussi.
Oui,
il y a une connaissance, je veux dire, c'est intéressant de voir le parcours de Buffy. C'est un récit initiatique, là, on s'en cache pas, mais c'est un récit initiatique qui, même... à cause de la conclusion de la saison 5, dépasse les... Elle meurt. Bon, spoiler. Yitch!
Ben, comme elle meurt plus qu'une fois, je pense que ça va.
Exactement. Je dirais pas dans quelles circonstances. Non, mais c'est vrai, parce qu'elle meurt à la fin de la saison 1 aussi.
Ouais.
Donc, il y a une autre connaissance, encore une connaissance qui passe à travers...
La mort, le passage.
Ouais, fait que c'est un récit initiatique, mais encore!
Ouais, mais les morts, c'est juste des passages, là. C'est juste des rituels dans la série, là. C'est pas des vrais morts, tu sais.
Oui, oui, oui.
Mais par rapport au thème du deuil, moi, je dois dire qu'à la fin de la saison 5, il a fallu que je prenne un moment pour moi, là. J'allais prendre une petite marche, là. Il fallait que je fasse mon deuil. Bon, ben, elle est morte. Tu sais, moi, ça m'a pris quelques heures, là, à me dire, aïe, ce personnage-là que je suivais, que j'appréciais beaucoup, là, c'est fini.
Parce que c'était supposé de l'être.
C'était supposé de l'être. Oui, et puis elle revient. Ce qui m'amène à la question du deuil. Tout à l'heure, on en discutait avant l'émission, comme quoi le deuil est quand même un thème pas très exploré. C'est normal. Il y a de la mortalité, étant donné les monstres auxquels ils font face. Donc, mais le deuil est exploré particulièrement à fond compte tenu que c'est quand même une série pour adolescents. Mm-hmm. Donc, que ce soit la mort de Jennifer Carpenter en saison 2, on voit vraiment l'impact que ça a. La mort, comme tu disais, de Joyce, la mère de Buffy, et aussi la mort de Tara. Et à chaque fois, les morts ont des graves conséquences. C'est pas vu comme une trivialité quand c'est des personnages principaux.
Oui, bien, à l'exception du... le nom m'échappe, là, mais dans le deuxième épisode de la saison 1, Xander et Willow, en fait, Xander avait un ami qui meurt.
C'est pas mangé par les... Oh non, c'est le...
C'est assez récurrent dans la première et la deuxième, je me demande pourquoi, mais c'est souvent des jeunes de l'école qui meurent, ça m'a marqué.
C'était comme
aussi.
Moins grave.
Il y en a beaucoup. Trois qui meurent dans la prof mente religieuse.
Oui, mais il y en a plein qui meurent. Je sais plus c'est à la fin de quelle... Ben, en fait, à la fin de la saison 3, Buffy se fait remettre le petit prix de la part des élèves de l'école. Ils ont fait un petit trophée. Puis c'est Jonathan qui livre le discours de la victoire, là, de félicitations à Buffy, puis il lui dit « Grâce à toi, notre année, on a été l'année avec la plus maigre mortalité. » Il y a même des blagues là, sur la quantité de personnes.
Saison 1 le journal étudiant, il y a un obituary. Dans le journal étudiant, il y a une section des mortalités.
Ben, le seul deuil qui est vraiment accompli, c'est celui de Joyce, parce que les autres, ça, c'est toujours assez problématique, puis c'est toujours à peu près des mauvaises morts, tu sais. Il y a toujours quelque chose de du revenant après aussi. C'est le cas pour Tara, c'est le cas pour Buffy. La mort est rarement acceptée, d'autant quand c'est Willow qui a... Willow est incapable, en fait, de faire son deuil, ou à peu près dans tous les cas.
Mais parce que c'est la mort probablement la seule qui est totalement naturelle, disons.
Oui, je pense que c'est
la mort. La mort de Joyce aussi est totalement naturelle.
C'est ça.
Mais il y a celle de Tara aussi.
Mais elle n'est pas vraiment au sens où c'est Warren, c'est ce que je veux dire. Ouais. Celle de Joyce, elle est vraiment dénuée de toute forme d'intervention monstrueuse, disons.
Oui, absolument. Oui, oui.
Elle n'est pas liée à la digeste, en fait. Elle n'est pas liée aux autres personnages.
Elle n'a vraiment aucune emprise là-dessus, Buffy.
Ça arrive à plusieurs reprises. C'est... je m'aventure à le... Bon, je vous propose ça, vous voir, mais j'ai l'impression que les vrais moments, ou du moins les moments que l'on partage tous dans une vie, sont les plus catastrophiques dans Buffy. Les moments surnaturels, ou les moments démoniaques, ces moments-là se passent beaucoup plus sur le problème à régler, réglable, et cerné, j'ai le mot, mais c'est pas contaminé, là, c'est comme contenu, mais... et une fois que c'est fait, on passe à autre chose, mais les vrais gros moments, c'est les moments que l'on vit tous.
Oui.
Les milestone moments, si on peut dire, dans l'histoire de Buffy, c'est des trucs qu'on partage avec elle. C'est qu'est-ce qu'elle vit malgré ses pouvoirs.
Mais au-delà des moments traumatiques, c'est même le quotidien aussi. T'sais, c'est dans tout ce qu'on partage, mais jusque dans le quotidien.
Oui.
Ce qui est vraiment partagé dans Buffy, c'est la vie normale, en fait. C'est pas juste le moment traumatisant, c'est aussi d'avoir à payer les comptes, c'est aussi d'aller à l'école, puis c'est ces moments-là, en fait, qui sont partagés, parce que c'est vrai que tous les moments surnaturels sont généralement, c'est Buffy seule dans la grande majorité des cas.
Oui, exactement.
Parce qu'après avoir eu son savoir, elle part elle-même combattre les démons, mais autrement, elle est presque seule toujours.
Elle, majoritairement, ça devient un grand enjeu chez le personnage. Mais ce truc-là, par rapport au quotidien, est intéressant parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y avait la publication des bandes dessinées. Là, on ne parle pas de la série saison 8, saison 9, saison 10, qui est en publication actuellement. Mais Dark Horse avait aussi des séries qui se déroulaient pendant les étés. Parce que l'histoire de Buffy fait en sorte que les saisons sont seulement pendant l'année scolaire, qu'on se retrouvait avec un 20 numéros, un 25, 30 numéros dans le milieu qui était Summer Break. Ça complétait en quelque sorte, bon, il n'y avait rien vraiment qui avait des grandes incidences sur la digeste télévisuelle, mais il fallait quand même qu'on remplisse ça d'une manière ou d'une autre, fait qu'on avait leur temps de vacances, en quelque sorte.
Oui, ils jouaient souvent avec ça au premier épisode de l'année, cette espèce de retour à l'école-là qui était toujours un peu bizarre, parce que, ah tiens, on ne s'est pas vu depuis 3 mois.
Il n'y a pas eu un vampire.
Oui, c'est ça.
Ah non, on Buffy continue.
Que ça a été tranquille. Oui. On est allé manger la crème glacée toute l'été.
À un moment donné, elles disent, oh, c'était un gros été de slaying. À un moment donné, elle revient et elle dit, oh, ça a été tough comme été. Donc, ça dépend.
Ça dépend
des
saisons. C'est vrai que ça dépend des saisons.
C'est pas toujours...
Mais au sujet des moments du quotidien, enfin, ou de ces choses qu'on partage tous, je sais pas si c'est tout à fait vrai que ce qui est vraiment partagé, ce qui fait que le public s'identifie au personnage, pas juste Buffy, au personnage de la série. Pour moi, c'est aussi ce qui se passe dans les moments surréels, là, que je veux dire, que je pense à des Monster of the Week un peu plus classiques, comme l'élève de l'école qui est devenu invisible parce qu'il était trop ignoré. Bon, c'est sûr que la partie où ça dégénère, où elle se met à pousser des gens dans les escaliers puis à vouloir tuer tout le monde, ça, évidemment, qu'on s'y identifie peut-être moins. Mais souvent, quand même, les causes sont assez proches de choses qu'on peut avoir vécues, là. De la même façon, ou si je prends un exemple un peu plus grave, là, le moment où Angel devient Angelus dans la saison 2 à l'issue de la relation sexuelle, je dirais, c'est quand même une affaire un peu grosse, mais je suis sûre que vraiment, vraiment, beaucoup de gens peuvent retracer de leurs angoisses là-dedans. Là.
Ben, c'est pour ça que je le mentionnais. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai mis la question sur la table. C'était parce que même dans le plus surnaturel qu'on a dans Buffy, on a toujours une vaste métaphore pour quelque chose qu'on a vécu.
Tellement que quand elle rencontre la conseillère psychologique, Buffy, après ça... Ben, le conseiller ou la conseillère devine, ah, OK, il s'est passé quelque chose, puis là, ton ex, il a changé. Tu sais, il est quand même capable de l'expliquer, puis est capable sans dire, ben, il y avait un homme, il a perdu son âme, tu sais. Ils sont quand même capables de se comprendre, là, avec, je me rappelle pas si c'était un homme ou une femme,
c'est un homme qui meurt rapidement.
Oui, c'est ça, un homme noir, oui, ça me revient, là. Et puis, donc, c'est ça, il a dit, ah, your ex, he changed, tu sais. Donc, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même des rattachements, c'est des exagérations de la réalité. On y prend la réalité.
Oui, mais c'est vrai que le double discours que Buffy doit entretenir avec sa mère pendant tout le temps, qui est très, très long, où sa mère ne sait pas encore qu'elle est une Vampire Slayer.
Deux saisons.
Félicitations! Je ne sais pas comment elle a tenu ça tout ce temps-là.
Mais c'est que sa mère fait beaucoup de déni.
Sa mère pratique
le déni.
Oui, des années avant ça, quand même.
Oui, c'est ça, parce que Buffy, elle est déjà Slayer quand la saison 1 commence.
Elle a déjà brûlé une école.
Ouais, c'est ça.
Juste le gym. mais bref, ce que j'allais dire, c'est que ça a dû aider aussi. C'est quand même un choix narratif adroit, là, de ce côté undercover de l'opération de Buffy. Parce que ça lui permet de faire toujours le lien, finalement, entre le côté surréel et le côté réel, là, dans le fond, de ce qu'elle vit. Là. Elle opère la traduction pendant les premières saisons, puis à un moment donné, c'est comme si elle n'avait plus besoin d'opérer la traduction pour nous, parce qu'on est rendu habitué à faire le lien.
Mm-hmm. Puis d'ailleurs, Spike est super surpris hein, quand il découvre « Your mother doesn't know », tu sais, c'est comme comment ça se peut, comment t'as pu cacher ça à ta mère tout ce temps-là. Là,
c'est un savoureux épisode où ils disent qu'ils sont dans un rock band ensemble.
Elle joue du triangle. Elle, supposément que Buffy joue du triangle.
Mais en fait, tu te rends compte que c'est aussi le déni de toute la ville, tu sais, puis même du monde, tu sais, qui est un déni qui est même pas si inconscient que ça.
Ah t'sais. Non, en tout cas, plus les saisons avancent, plus c'est surtout dans la troisième avec la mère et tout, là, c'est vraiment un déni
très actif. Elle incarne quelque chose qui est... Ouais, c'est ça, absolument, ouais.
Déni avec lequel il joue, d'ailleurs, dans la saison 3, dans l'épisode sur les sorcières, là.
Oui, ouais, ben oui,
absolument. Avec l'espèce de revanche des parents.
Ah oui!
Ouais.
C'est quoi l'anagramme mou? Ça veut dire quoi? Mother?
Ah oui, mother. Non, c'est.
Of the occult ou quelque chose.
Against the occult. Il me semble que c'est
non, mais pas un.
Non,
oh,
ouais.
Quelque chose de même.
Opposed to the occult.
Opposed to the occult.
Mais je me demande s'il n'y a pas une différence à faire entre les. C'est-à-dire, tu sais, tu disais qu'il y a du surnaturel qui pouvait aussi avoir une résonance dans le quotidien.
Ben beaucoup.
Je suis absolument d'accord, mais je me demande s'il n'y aurait pas une différence à faire entre le surnaturel qui arrive dans leur univers familier puis celui qui vient de l'extérieur. Mmh. Parce que, tu sais, il y a toujours l'espèce de démon qui va être le démon de la dark story de la saison, tout ça, qui vient presque toujours de l'extérieur, surtout à part la saison 6. Puis la saison 2. Mais autrement, c'est toujours de l'extérieur. Puis c'est toujours ces démons-là qui sont vraiment dans l'opposition bien mal. C'est les seuls qui sont généralement les moins intéressants. Puis en tout cas, c'est débattable, mais ceux-là, ils sont beaucoup moins impliqués émotivement dans...
Je voulais juste faire du millage là-dessus, comme quoi il y a un des méchants, à un moment donné, ils ont ramené l'histoire de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, donc le personnage qu'on voit qu'à un seul épisode, il se transforme et il bat sa blonde. Quand il se transforme en genre de Mr. Hyde, il bat sa blonde, là, il explique que c'est parce qu'il prend une potion magique, quoi que ce soit. C'est pas un épisode qui est marquant. C'est pas un épisode qui est marquant. Ce que je voulais mentionner, c'est qu'on voit très, très clairement la métaphore de... Il y aurait un trouble mental, il est peut-être bipolaire ou quoi que ce soit, et c'est pas compliqué de deviner le comment ça pourrait se répercuter dans la réalité, un peu comme on disait tout à l'heure, une mauvaise rupture, tu sais, par rapport à Angel quand il devient Angelus. Donc les métaphores des fois sont plus explicites que d'autres.
Ouais, mais c'est vrai que si on dit les grands méchants, si on pense au maire dans la saison 3, Adam c'est un peu différent, mais il vient quand même de l'extérieur, puis Glory surtout. Parce que The First limite est quand même plus.
Ouais.
Mais The First, quand même intéressant, parce que pendant que tu étais en train de dire ça, j'étais comme, est-ce que tous les vilains fonctionnent comme des métaphores pour des trucs dans l'évolution personnelle? The First, c'est d'arrêter d'être un enfant. Après ça, t'as la.
Attends,
Tu parles du Master.
Ouais, c'est vrai que moi, ça fonctionne pas tout à fait. Parce que il y a Boys, après ça, il y a Papa, après ça, il y a, tu sais, Glory qui est comme Urfemme. Non, mais en même temps, on ne fonctionne pas Glory, c'est 5. OK, bon, je vais retourner sur le drawing board avec celle-là, non, mais...
Non, mais c'est pas fou. Il y a quand même des bonnes pistes là-dedans, parce que c'est vrai que le fait que le problème de la saison 2, c'est l'amoureux, le problème de la saison 3, c'est la figure du père.
Ouais, qui est fonctionnel à quelques reprises, parce que c'est un bon père pour Faith.
Ouais.
Oui.
Moi, ça, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Comment est-ce que c'est juste... Là, dans ce cas-ci, c'est l'enfant.
C'est un bon mère aussi.
Ben, il semblerait, oui.
Il a l'air d'un bon mère, en fait.
Surtout pour les démons, mais oui.
Mais c'est vraiment un bon père pour Faith.
Ouais. Oui.
Je pense que c'est construit de manière intéressante, mais je pense que c'est peut-être... Mais là, je m'embarque dans quelque chose dans quoi j'ai pas pensé, là. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on pense qui devrait être un bon père, mais que c'est pas vraiment un bon père? Je veux dire, il y a comme...
Non, mais pour Faith, c'est ça, c'est comme...
Non, je sais pas, pour il est Faith. Vraiment hyper paternaliste, là, le maire, là. Il la contrôle dans son habillement, il la contrôle dans tout, là. Moi, j'irais pas dire que c'est une bonne figure paternelle, en tout cas, j'en voudrais pas.
Non, effectivement, moi...
Puis d'ailleurs, c'est ce que je trouve hyper riche dans cette saison-là, c'est l'opposition de Giles Buffy et mère Faith.
Ouais.
Qui est justement, on a une figure hyper paternaliste versus une relation de père qui est bien construite.
C'est drôle parce que je le vois... quand je dis ça, je le vois plus des yeux de Faith.
Voilà.
Faith a toujours l'air très heureuse.
Faith, malheureusement, place son affection en lui... Parce que pour des raisons diverses.
Ouais.
Mais oui, elle lui donne toute sa confiance et justement, c'est la seule figure paternelle qu'elle a jamais acceptée. C'est ça. Ce qui fait pas de lui
une bonne figure paternelle. Mais c'est quand même quelqu'un qui l'encourage, qui la valorise. Dans qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas correct, là, au final.
Mais c'est des réflexes d'abuseur aussi. Je veux dire, tu peux taper sur quelqu'un et lui dire qu'elle est très belle le lendemain. Je dis pas que c'est un abuseur. Mais tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, effectivement.
Mais il est pas abuseur par rapport à elle.
Non.
Il profite de la situation, il exploite ses talents. Mais il abuse pas. Le maire abuse pas.
Non, 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 mais il est... Je suis désolée, je n'irai pas dire que c'est une bonne figure paternelle, le maire, pour Faith.
Non,
non.
Non, c'est... Ouais.
Je suis désolée, il polisse son habillement, il polisse son corps.
Je me rappelle pas de ça.
Il est très conservateur.
Oui, c'est ça.
Il fait mettre une robe une fois.
Ah, ouais.
Puis elle est vraiment mal à l'aise.
Il dit il dit de se calmer.
Ah oui, c'est vrai qu'elle traite un peu comme une poupée à un certain... Ouais, c'est bon.
Ben, comme une petite fille, alors qu'elle n'est pas une petite fille, on est d'accord.
Ouais.
Mais oui, du regard de Faith.
Du regard, parce que je me rappelle qu'elle-même s'épanouit beaucoup pendant ce moment-là.
Je trouve ça riche du point de vue du personnage de Faith.
Ouais.
Surtout que ça revient quand elle revient. Je sais plus dans quel épisode, là, c'est The First, je pense qu'il...
Il revient dans la dernière saison,
C'est ça, hein.
Je pense qu'elle voit là le problème, en fait.
Ben oui, c'est ça. Puis c'est là que c'est intéressant, c'est que ça.
Parce qu'elle vient de rencontrer Robin Hood, qui lui a une figure très positive.
Ça
part
de la construction du personnage de Faith plus que l'inverse. C'est ça. Je suis d'accord avec toi,
mais c'est ça.
Comme ça.
Mais c'est là où, encore, pour revenir à l'introduction, puis la complexité du texte, ça vient bien intéressant de faire. Ben ce personnage-là a une évolution qui n'est pas, tu sais, dans l'explicite, si on peut dire.
Faith
a. Tu sais, Faith. Se développe beaucoup plus quand elle n'est pas dans les épisodes. Tu sais, elle fait des grands bonds à l'extérieur de la diégèse.
Elle se développe dans Angel, en fait.
Ouais, ça aussi. Ouais, non,
puis Angel agit comme une figure paternelle aussi beoucoup, parce qu'il n'y a jamais de tension entre les tensions sexuelles ou quoi que ce soit.
Oh boy! Saison 3 de Buffy. Beaucoup, là.
Ouais.
Mais je parlais plus dans Angel, en fait.
Mais dans Angel, en effet, c'est comme désamorcé.
Ouais.
Puis limite, je veux dire, on pourrait quand même se dire que la présence au début, la présence d'une tension sexuelle dans une relation de modèle père-fille.
De toute façon, c'est assez.
C'est pas nécessairement exclu.
Ouais.
Mais ça arrive quand même.
De toute façon, ils ont réécrit beaucoup les personnages d'Angel, là. C'était pas toujours cohérent non plus par rapport à ce qui avait été avant, là.
Ah ouais?
Il me semble,
Et
Surtout Angel, je dirais.
Ben, Angel, là, moi, je pensais qu'il avait mordu des rats pendant 100 ans après avoir eu son âme. Puis là, tout à coup, on découvre qu'il était à Los Angeles telle année, qu'il était dans cet hôtel telle autre année, dans les années 50. Ouais. Je n'ai pas encore compris.
Ils ont fait de la réécriture. Je pense qu'ils ont vu le potentiel, puis le potentiel d'avoir toute une décennie à remplir, puis...
Ouais.
Surtout avec Spike qui ont réintégré dans la dernière saison, fait qu'on les voyait pouvoir vivre l'histoire en fait.
Là je vois Sandrine.
Non.
Okay.
Non.
Bonjour.
J'ai pas écouté Angel malheureusement.
Ah oui, ok. Ça va.
C'est la prochaine chose, mais j'essaie d'arrêter d'écouter les choses, c'est pour ça. Mais
bonne chance.
Ouais. Je sais.
Qu'est-ce que tu fais ici?
C'est ça le problème, c'est comme.
Mais non, là, tu mets à profit ce que tu as écouté.
Mais c'est intéressant aussi, parce qu'après, on peut penser tous ces objets-là. Puis, de ce que vous dites, je comprends très bien, j'arrive à vous suivre. Tout le monde m'a parlé d'Angel pendant que j'écoutais Buffy aussi, donc j'ai un peu l'impression que je l'ai écouté.
Ils ont voulu les faire évoluer ensemble, mais ils n'ont pas réussi. Il y a eu quoi, 2 crossovers en tout, puis c'était assez faible.
J'aimais pas tellement Angel dans Buffy.
Non.
Quand j'ai commencé, donc ça m'a pas porté vers Angel. Tout le monde me disait, ah, t'écouteras Angel après, justement.
Mais pense à Cordelia et à Wesley.
Cordelia, ça n'a pas d'allure.
Ouais, peut-être alors. Ils sont là beaucoup?
Ben, ils sont là.
Alors ça va.
Puis c'est quelque chose que comme là, je suis pas en train d'en parler, là, mais on peut pas en parler parce qu'on parle de Buffy, on parle pas d'Angel. Mais la progression de Cordelia, c'est un des trucs les plus inattendus, puis les plus, comme, positivement féministes que je peux imaginer.
Dans Angel.
Juste, si tu parles de épisode 1 de Buffy, jusqu'à dernier épisode de Angel. Ouais. De tracer, là, dans la manière d'un roman russe, là, t'sais, de vraiment faire l'arc complet du personnage, c'est ça, c'est bien agréable pour Willow, effectivement, je suis d'accord, mais c'est quoi Cordelia, le plus gros story arc, ça n'a pas d'allure.
Ouais. Bon, on s'en reparle, alors.
Oui, on s'en reparle, absolument.
C'est drôle de la voir s'emmerder au paradis, quand même.
Oui. C'est tellement... Oui. On voulait... Ben, c'est ça, parce que, bon, inévitablement, il fallait quand même qu'on parle de en quoi est-ce que c'est important, Buffy, puis c'est comme l'éléphant dans la pièce, là, quand on va parler féminisme, s'il vous plaît.
Pourquoi c'est l'éléphant dans la pièce?
Je sais pas, c'est comme une expression qui est juste sortie, mais c'est ça, en gros, ce que j'aurais dû dire, c'est 20 minutes pour aborder ça.
Il faut
absolument en parler. Dans le texte et à l'extérieur du texte, ça a tellement été utile pour, c'est ça, si je veux ramener ça à l'université encore, pour, comme tu disais, avec l'acquisition des savoirs, ça a tellement servi à des femmes d'être capables de se...
Il y a des hommes.
Et des hommes, oui.
Mais ça peut être une introduction au féminisme. Ça a été mon cas, là. Ça a été mon introduction au féminisme. Puis ça a été le cas sûrement de beaucoup d'hommes et de femmes, là, de partout.
Oui, exactement. Ben oui, parce que c'est quelque chose qui commence dans des années formatrices. Tu sais, tu commences Buffy est littéralement comme un 7-year plan pour faire... ou du moins, tu peux... Là, je reviens
encore. L'écouter sur 7 ans, je pense que ça m'a pris moins de temps que ça.
Non, mais initialement, là, je veux dire, quand on... Ouais.
Vous l'écoutez quand? Vous avez commencé, vous avez quel âge? J'ai touché.
Moi, j'ai commencé la deuxième saison.
Ah ouais?
J'étais en secondaire 3, peut-être? Ouais, secondaire 3. J'ai la même âge que Buffy, en fait. On est nés la même année, fait que ça comme correspondait.
Oh, wow.
C'est adorable, ça. 98, j'avais peut-être 16 ans. Ouais, 98 à peu près.
OK.
Fait que toi aussi, autour de la deuxième.
Étrangement, ouais. Ouais.
Moi, j'ai découvert ça sur le tard, c'est terrible. Là,
c'est pas terrible, ça fait juste parler de l'importance du texte.
Ouais, tout à fait.
C'est ça.
Mais aucun complexe. J'ai écouté Buffy pour la première fois il y a peut-être 3 ans.
Ben, moi, 5.
Pas grave.
J'avais regardé 3 fois depuis.
Ben oui.
C'est ça.
Mais oui. Je veux dire, il y a des
trucs... Je l'ai dit publiquement.
Ouais. Ben moi, j'avais un contrat, ben pas un contrat, mais une entente tacite avec ma blonde. Elle se réservait Buffy pour son congé maternité. Fait que c'était comme, tu sais, j'étais comme, ah ouais, mais un jour tu vas écouter Buffy. Mais comme, un jour on va avoir des enfants. J'étais juste, yes, all right.
Pourquoi t'as eu des enfants pour qu'elle écoute Buffy, c'est ça? On la salue.
C'est sa logique à elle. Bonjour Marie-Ève, comment ça?
Moi, je pense que je suis le seul ici qui l'a écouté live pendant que ça passait. Donc la saison 1 en 97, la saison 2. Je les écoutais au fur et à mesure que les épisodes sortaient.
Moi, j'ai commencé à les écouter live à partir de la 6. Je pense. 5-6
okay. Question importante. Est-ce que vous avez découvert Buffy en français ou en anglais?
En anglais.
Anglais.
Anglais,
ouais. Je pense qu'il a découvert Buffy en français. Ça, en fait, quand j'en parle souvent dans mon entourage, les gens me disent « Ah oh, ouais, je regarde un peu à la télé, mais C'est pas fou, hein? C'est les dialogues qui font
très, très mal traduits.
Non, je...
Mais non seulement ils sont mal traduits, mais ils sont excellents en anglais.
Ouais. C'est ça, je plains un peu.
Mais on s'est cité dans les cours de traduction comme un des pires exemples. Mais c'est vrai.
Tu vas faire quelque chose.
C'est vraiment atroce, là. Martin Winkler en parle beaucoup de ça, puis c'est vraiment intéressant parce que ça a tout été traduit en France. Puis il y a un mépris pour la télé de genre en France qui est vraiment très, très grand. Puis il y a beaucoup de censure aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été censurées dans le texte.
Ah oui?
Puis la télé française, alors que le cinéma n'est pas du tout censuré, la télé l'est énormément, en fait. Puis chaque épisode, il est attribué, pas juste Buffy, mais en général, lui attribuer une âge limite à laquelle on peut l'écouter, tu sais, par exemple, 13 ans et plus, 16 ans et plus. Mais ça détermine l'heure à laquelle ça passe. Ce qui fait qu'il ne passe pas les séries dans l'ordre. Parce que, tu sais, si ça joue à 7h le soir, puis à 9h le soir, ben ça va être des épisodes différents pour que ça soit par rapport aux âges. Donc, ça devient complètement incompréhensible, ce qui fait que les séries ont pris autant de temps à percer en France. Puis en plus, sont hyper mal traduites. C'est assez hallucinant. Ils n'ont même pas essayé de traduire l'humour, là, tu sais. Il y a énormément... Donc, il y a la censure aussi par rapport au contenu moral, par rapport à... Donc, tout le en particulier, le personnage de Drusilla est vraiment nul en français parce qu'ils n'ont pas du tout gardé sa duplicité, tu sais, son côté enfantin et démon et chidémon en même temps. C'est aplani complètement, donc c'est beaucoup moins dommage. Intéressant. Dommage. Je pense que il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été fait sur la version française de Buffy.
Je crois que plus quelque chose est bien écrit, ce qui est dans le cas de Buffy, je pense qu'on s'entend, plus c'est difficile à traduire. Ça, il faut falloir mettre l'effort et l'énergie. Il faut travailler fort. Parce que si quelque chose n'est pas spécialement bien écrit, tu sais, tu peux faire une traduction approximative.
Mais au-delà aussi de la qualité de l'écriture, il y a la langue. Mm. Tu sais, la langue de Buffy est quelque chose en elle-même. Elle est super riche. Il y a des expressions qui n'arrivent nulle part d'autre. Tu comprends les insides à force de... Hein?
On les comprend vite.
On les comprend vite, mais on voit que tu sais il y a des registres de langage qui existent entre certains personnages, comme Buffy et Willow ne se parleront pas de la même manière que Buffy et Giles et tout, que ça peut être des subtilités qui se perdent très rapidement en traduction. Des expressions communes anglaises là. Tu sais, les Scoobies, là, c'est comme ouf.
C'est la traduire,
Mais tu sais, même les titres, ils ont traduit n'importe comment, puis en perdant complètement l'origine, comme De Zeppo, par exemple.
Mm-hmm.
Ça fait référence au Marx Brothers.
Oui.
En français, je ne m'appelle pas, c'est quoi exactement le titre?
Je m'en vais vérifier ça juste pour avoir peur. Ça va me faire extrêmement peur. Mais non, mais tu peux continuer à parler, là?
Non, c'est ça, c'était... Attends, zéro pointé. Ils ont traduit, c'est iRobot Eugene par Moloch. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça où on perd vraiment plein de couches de sens, puis plein, surtout de pistes d'interprétation. Parce que ça servait les titres aussi, c'est interpréter l'épisode, tu sais.
Oui, tout à fait.
T'as raison, zéro pointé.
C'est ça. Alors qu'on s'entend que le public américain connaissait pas les Marx Brothers. Les adolescents américains connaissaient pas plus les Marx Brothers que les Français, là. C'était pas plus de leur génération. Là. Il fallait qu'ils fouillent eux-mêmes pour savoir de quoi il était question. Fait que c'est juste prendre le public pour des imbéciles. Là. C'est pas une question de référence culturelle.
Mm-hmm. Ben, c'est aussi, pour y aller dans la logique du marché, c'est probablement que les personnes qui étaient en charge de traduire avaient un mépris de la télésérie puisqu'ils ne l'avaient pas écouté et qu'ils ne pouvaient pas signer le sérieux que ça mérite. Pis c'est ça. C'est drôle parce que c'est le plus grand handicap qu'on a avec Buffy. Mm-hmm. C'est vraiment de continuellement dire aux gens « Non, c'est plus intelligent que vous pouvez le croire.
Mm-hmm. » On le sait, ça a l'air ridicule.
Ouais.
Elle a un steak, c'est pieux.
Un pieux.
Mr. Pointy.
Ça, elle a un pieux préféré qui s'appelle Mr. Pointy.
Oui.
Elle gère la fin de sa relation. Spoiler, j'étais à la fin de la saison 7, là, mais sa dernière rencontre avec Angel où elle parle de sa relation, elle lui fait une grosse métaphore de pâte à biscuits. C'est indéfendable et pourtant très drôle.
C'est très défendable.
I'm cookies.
On tire à sa fin.
Ben oui, mais c'est parce que ça me faisait penser à ce que tu disais. Je pense qu'il y a aussi, puis ça pourrait nous mener à toutes les questions féministes. Bon, déjà on est dans la culture pop, donc en général c'est moins bien reçu. Mais on est aussi dans la culture pop, pas tout à fait, mais aussi un objet culturel destiné aux filles.
Exactement.
Et ça, généralement, c'est doublement dévalorisé. Buffy, on s'entend, ça a aussi un très grand public masculin, fait que c'est pas tout à fait le cas.
Mais...
Je me sers de ça comme rebond. Donc, c'est encore moins bien pris au sérieux parce que c'est consommé par des filles. Mais
T'as absolument raison, hein. Oui. C'est fou parce que là, on est on a un film de Power Rangers, là.
Ben, je sais.
En comparaison, hein, s'il va dans les échelles de qualité, là, c'est...
Ben, il y a plein de contre-exemples, mais je veux dire, là, Buffy, c'est peut-être pas la chose la plus claire pour parler de cette question-là. Mais ce qui est intéressant dans Buffy, c'est que tout au long de la série, il y a des perles féministes. Là. Ça, on pourrait s'en reparler pendant des heures. Là. J'imagine que vous en avez plus que moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement parce que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent dans la culture pop de faire mourir les femmes quand elles deviennent trop importantes. On écarte des personnages. Je pense à ça parce qu'on discutait autour de Wonder Woman récemment au Filministe, et je vous invite d'ailleurs, je vais faire un peu de promotion.
Je t'en prie.
C'est tous les lundis, c'est des documentaires, des court-fictions, des quoi que ce soit sur des thématiques féministes diverses. Et cette journée-là, on était là pour parler autour de Wonder Woman. Et on parlait justement des hauts et des bas de Wonder Woman dans sa carrière et que justement, éventuellement, elle a été écartée, hein, elle est retournée au fourneau et tout ça. Et on réfléchissait à cette tendance à toujours écarter les femmes de la culture pop. Et Buffy, d'ailleurs, on l'a dit, outre tout ce qui se passe dans la diégèse, il reste qu'on l'a fait mourir deux fois. Elle meurt deux fois. Mais Buffy, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis demandé qu'est-ce qui va se passer si constamment on doit attendre qu'une fille tombe au plancher et qu'une autre doit se relever pour qu'on continue le flambeau, tu sais.
Ouais.
Un peu à la manière de Jessica Jones qui regarde Trish et qui lui dit « I love you » dans Jessica Jones et qu'elle lui passe le relais. Hein. C'est toujours, il y en a une qui tombe, l'autre se relève.
Ouais.
Mais si on doit constamment attendre qu'il y en a une qui tombe pour qu'il se relève, qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'aime avec, comment on va jamais y arriver d'ailleurs, et c'est ce que j'aime avec Buffy, c'est que dans la 7e saison, c'est ce qui se passe, c'est que c'est plus « The Chosen One », c'est plus « Elle est plus la seule à la porter ». Et en termes d'analyse féministe, c'est vraiment intéressant parce qu'elle le dit. Elle a dit « Pourquoi on est là? » Ben parce qu'il y a une gang de gars qui a décidé qu'on serait là. Puis en plus, ils sont même pas si « powerful » que ça. Elle pointe Willow, puis elle dit « This woman is more powerful than all of them ». Je sais pas trop comment elle dit ça. Mm-hmm. Et ensuite, elle dit, et je vais quand même citer son speech de motivation de troupe aux Slayerettes, ou en tout cas aux Slayer potentiels. Et elle dit « So I say we change the rule. I say my power should be our power. Every girl who could have the power will have the power. Can stand up, will stand up. Every one of us. Are you ready to be strong? » Et bon, tu m'as dit ensuite qu'évidemment, il se passe autre chose dans les comics. Mais si on referme la page, disons, à cet épisode-là, on termine la série, c'est magnifique parce que je crois que c'est là que Buffy est plus féministe que jamais. Parce que c'est pas en isolant les femmes de la pop qu'on va pouvoir leur permettre de faire quelque chose, mais en les regardant tout à la fois et tout ensemble. Et je me bats souvent contre cette idée qu'il y a un bon féminisme et un mauvais féminisme. Que Beyoncé serait une bonne féministe, mais que Nicki Minaj, non, par exemple. Que Katniss Evergreen serait une bonne féministe, mais Carrie Bradshaw, pas trop, tu sais. Moi, je pense que les femmes de la pop, il faut les regarder tout à la fois et tout en même temps, et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Et je trouve que Buffy nous permet ça dans sa dernière métaphore.
Ouais.
Elle nous ouvre la porte à une redistribution du pouvoir à toutes.
Mm-hmm. Et pour clarifier aussi, qu'est-ce qui se passe dans la série bande dessinée Dark Horse,
ouais,
ne contredit en rien la finale de la 7e saison. Il n'y a pas de retour en arrière. Il y a pas, en fait, il y a plutôt
une... Ça se poursuit. C'est ça. Construisent là-dessus.
Et il y a une diversification qui se fait des figures parce qu'il y a un des trucs qui en fait, Buffy, à quelques reprises, était pointé du doigt pour son manque de diversité.
Oui, oui, oui.
Mais le comic règle ça vraiment de même. Là, que, oui, oui, c'est... Il y a une centaine de Slayers par pays. Là, c'est, fait qu'il y a...
Oui, ben, ce qui ça aurait été bien le bout de la marde qu'il le fasse pas. Vu
c'est ça,
vu
qu'il pouvait. Là, ouais. Mais oui, non, il y a un élargissement, si je peux dire, du scope dans la bande dessinée que la télévision ne pouvait pas permettre pour des raisons budgétaires, j'imagine.
On le voyait pas dans la dernière saison, c'est vrai, mais tous les autres Slayers qu'on a vus avant ça étaient très diversifiés.
Absolument.
Ouais. Y a les deux seules blanches, c'était Faith puis Buffy, mais c'est vrai que sur le plan de la représentation, par exemple, c'est elle qui avait largement plus de temps, alors
ouais,
que les minorités étaient minorisées.
Et
elle
mourait, et voir grand problème de représentation dans toute la question de la First Layer, là, c'est terriblement maltraité en termes d'appropriation culturelle, je dirais. Ben, quand on va dans le désert, là, puis...
Ouais.
C'est terrible, là. C'est vraiment terrible. Mais bon, ça, c'est les mauvais coups de Buffy, là.
Ah oui, tous ces épisodes...
Tout qui est ethnique,
jour des
là.
Guillemets ethnique, avec... Oui. Ils ont toutes la même musique.
Ben oui, c'est terrible.
Ils ont toutes une espèce de musique... Tribal. Les réécouter, pour vrai, c'est évident. Ouais. C'est
la Bomienka, tout
le passage de Spike en Afrique.
Oui, ça évoque vaguement. Tu sais, il y a des tambours, il y a de la flûte de pan, genre.
Oui,
c'est vraiment
des fois.
Ouais.
Dans des pays qui ne jouent pas de la flûte de pan.
Il y a un côté très californien là-dedans, je pense.
Oui, bien sûr.
C'est bien dit.
Mais plutôt que ça, mais C'est-à-dire qu'on voit qu'on commence à avoir des traces de cette métaphore finale-là, plutôt dans la mesure où, justement, Buffy, c'est la première à mourir, mais à ne pas mourir. Et,
oui,
donc, et à cohabiter dès le début avec d'autres Slayers. T'sais, c'est probablement la première fois de l'histoire où il y a déjà deux Slayers dès la fin de la première saison.
Tout à fait. Mais c'est ça. Mais c'est juste que ce qui est récurrent quand même, pour par exemple aux femmes guerrières, c'est que les femmes guerrières souvent se tuent pour les autres, vont sacrifier leur vie pour autrui. Puis ce qui se passe
dans la saison 5 et dans la saison 1, mais d'une autre façon.
Oui, exact.
Mais elle était prête à mourir.
Oui, puis elle est dans sa robe blanche virginale.
Elle était prête à mourir quand elle est partie.
Il y a tout ça qui était pas très, qui était intéressant, mais qui refaisait tout le temps les mêmes choses. Et c'est ça qui est intéressant dans la 7e, c'est qu'on est ailleurs.
Là, je vais ouvrir une parenthèse comme quoi il le mentionne très explicitement plusieurs fois dans la série, comme quoi la grosse différence entre Buffy et les Slayers précédentes, c'est qu'elle fonctionne avec une équipe.
Oui,
et ça,
oui,
c'est une thématique. C'est une thématique importante de la série, c'est que, regarde, toute seule, une Slayer avec juste elle et son Watcher n'aurait pas survécu, mais c'est Xander qui vient la rechercher, et puis une autre fois, qui la réanime, et une autre fois, il arrive autre chose. C'est à chaque fois.
Même Willow, par exemple, Willow, Santiara ou Kennedy, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc, il y a toute cette relation d'amis.
Ils se protègent entre eux.
Entre femmes, d'abord, mais aussi, justement.
Ils s'aident. Et c'est ça qui explique sa longévité, qui explique. Donc on dit, c'est comme si il disait, tant que les Slayers ont fonctionné tout seuls, ils vivaient pas vieux, ils vivaient pas vieilles en fait. Et puis il y avait de la difficulté contre les forces du mal. Mais à partir du moment où ils ont vraiment formé une communauté autour, ah ben là ils ont été capables de vraiment prendre l'espace. Puis.
Ah, puis d'ailleurs ils jouent souvent là-dessus, un peu à Harry Potter, là, que le héros n'est rien sans ses émotions, ses peurs, sa tristesse.
Et sa relation amoureuse avec le Big Bad.
Oui.
Et moi, j'aimerais revenir sur la figure de Xander, vu qu'on a abordé la question du féminisme, parce que, et aussi en rebondissant sur cette idée du Scooby Gang, enfin, de l'entourage de Buffy, où il y a aussi sa mère, il faut le dire, et éventuellement sa sœur, là, qui
apparaît.
Oui, littéralement.
Elle apparaît. Faut lui donner ça, elle apparaît.
C'est la seule chose qui a réussi.
Hey. Je l'aime Dawn, moi.
Ça t'aime Dawn.
Oui.
Mais bref.
Wow.
C'est Xander puis Dawn, tes personnages préférés.
Non, mais pour fonctionner avec le deuxième point qu'on avait dans l'émission, je trouve que c'est des belles métaphores qui fonctionnent très bien. Je me. Ok. Oh,
oui. T'aimes les métaphores, toi. Ok, mais bref. Pour revenir à Xander. Xander, il y a un ami gars au tout début de la saison 1, il le perd rapidement et devient un trio avec Willow et Buffy. Mm. Et là, ça devient un running gag qui se... Il fait des calls gras, en fait, puis il se plaint d'avoir pas d'ami gars avec qui les rire. Parce que on se rappelle que Xander est quand même très libidineux au début, là.
Mm-hmm. Oui.
Et ça lui revient souvent d'en face.
Bien dit.
Oui, mais je pense qu'il y a quand même une... Ça nuance de façon intéressante son personnage. Par ailleurs, l'autre personnage de Chum qui apparaît quand même tôt, bon, je vais passer sur Angel, mais il y a le personnage de Oz dont on n'a pas parlé. Ouais. Mais Oz, c'est une autre sorte de gars aussi. Je pense que ce qui est intéressant dans la représentation des genres de Buffy, c'est aussi qu'ils sont représentés avec différents idéaux puis différentes... selon différents modèles, tu sais. J'avoue que en réécoutant la série, je suis un peu irritée là, par comment Xander est... C'est ça, j'ai dit libidineux, je pense que ça
dit un peu lourd,
tout,
ouais.
Là.
À ce point-là?
Oh, mon Dieu,
la première
oui.
chose qu'il fait en voyant Buffy, c'est la désirer, là.
Ah, il pense...
Ça fait comme... Je vais être honnête, là, ça fait au moins 7 ans que je n'ai pas écouté, là.
Mais la saison 1, je trouve que ça passe encore, mais c'est effectivement quand il devient un peu moral à la fin, là.
Ouais.
C'est
ah,
là
ouais.
que ça
il était
haut.
Très amoureux d'elle au début.
Oui, ouais. Absolument. Ouais, ouais.
Très amoureux, très jaloux.
Ouais.
Il veut beaucoup la protéger. D'ailleurs, quand il parvient à la protéger par miracle, c'est toujours des grands moments dans sa carrière de Scooby. Mais bon, c'est comme s'il avait cherché son identité masculine, il avait réussi à la placer un peu au sein d'un groupe de femmes, ce qui est assez formidable. Finalement, il est assez unique, je pense. Puis finalement, bon, il se retrouve dans une situation amoureuse avec Anya qui devient presque cliché, là, avec le mariage qui s'en vient. Puis là, avec la fin du mariage, c'est comme si il n'y avait pas d'issue identitaire pour Xander à l'issue de ça. Je veux dire, il est pris pour avoir voulu être un homme classique, là, ou un homme macho, puis là, ça n'a pas fonctionné. Que restait-il à Xander?
Crois,
ben, juger ses amis.
Je crois qu'il évolue bien dans la bande dessinée, par exemple, là, que j'ai pas lu, mais j'ai juste lu le premier.
Mais je pense qu'on est. Oui, c'est ça. On est peut-être un peu. On est harsh avec Xander en ce moment. C'est parce qu'il représente souvent aussi le bien, là. On n'a pas parlé de. Est-ce que Buffy est une série morale? Je pense que oui. Et je pense que ça ne sert pas la série tout le temps, que ce soit aussi moral. Et souvent, Xander est le messager de la moralité. Ça, c'est bien, ça, c'est mal.
Ah oh, oui.
C'est Xander qui tranche.
Mais c'est vrai, mais il est souvent ridiculisé pour ça. Oui. C'est-à-dire qu'il est détesté pour ça. Donc, je pense que ça rétablit un certain équilibre.
Puis la rédemption, la place de la rédemption dans la série, la place de. Il y a une ambiguïté morale. Moi, en tout cas, je serais pas prêt à dire que le bien et le mal sont toujours si bien classés que ça, parce qu'à un moment donné, Giles, il dit même. Ils font même la blague à la fin d'un épisode où il discute avec Buffy, puis il lui dit: ah, ben oui, la vie est très simple. Les gens qui sont méchants portent toujours un chapeau noir. Oui, ils sont clairement identifiables. Puis les autres qui sont blancs, qui sont bons.
C'est lie to me.
Mais effectivement, je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à doser le fait que personne n'est tout blanc, personne n'est tout bon, tout mauvais.
En effet, dans la plupart des cas, en fait, avant l'émission, on parlait de la fameuse scène extrêmement litigieuse de la saison 6 où Spike est déjà dans son arc de rédemption, en fait. Là, il était méchant, il est amoureux de Buffy, il est en train de devenir bon.
Il n'a pas son âme.
Et quand tout à coup, il fait irruption chez Buffy qui a mis fin à leur relation et il essaie de la violer.
Ouais.
Et là, c'est un peu le moment où la série nous dit « Vous l'aimiez, là, Spike, mais attention, il est méchant. »
Ouais. Il y a eu un vrai briseur, hein? Le public s'est senti vraiment trahi à ce moment-là.
Moi, j'étais fâchée.
Mais c'est comme nous interdire de voir la nuance, justement, dans le personnage. Parce qu'à ce moment, je veux dire, c'est sans retour. Tu fais un personnage qui essaie de violer quelqu'un, tu fais un personnage pédophile, c'est un peu pareil.
Il
n'y a pas de pardon.
Oui, mais est-ce que... Là, la question se pose, puis là, je vais ailleurs peut-être, mais est-ce que parce que pour eux, c'était pas la même chose? Je pose la question. Est-ce que l'agression sexuelle est plus banalisée, quelque chose de pédophile à l'écran? Je pose la question. Je pense pas, vu Joss
Whedon. C'était vu comme étant très lourd.
En tout cas,
elle n'est
pas banalisée dans ce film.
Non, cet épisode-là.
Non, je sais, même surtout avec justement, on a effacé très rapidement cet épisode-là, mais l'épisode de violence conjugale, c'est quand même quelque chose.
C'est pas traité avec légèreté.
Non, visuellement.
Le viol n'est pas traité avec légèreté.
En fait, visuellement, ça a été traité un peu comme The Body, tu sais, comme un moment de réalité très long. Très, la lumière.
Ils ont volontairement changé la granulosité de l'image.
C'est hyper lumineux, on est dans un lieu blanc, tout ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ont voulu montrer que ça, c'était du réel.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est fâchant, parce qu'il était déjà bien nuancé, Spike. On avait quand même déjà tout ça. Il était démon, on le savait.
Oui. C'était pas trop dans son personnage.
Non, il fait des mauvais coups quand même dans la saison 6. Là, l'épisode où il a ramassé des œufs de démon, là.
Oui.
On lui faisait tous confiance. Puis là, c'est lui, l'espèce de tata qui fait le marché noir d'œufs de démon qui vont tout exploser dans son sous-sol. On a compris.
C'est l'épisode où Riley revient marié, non?
Ouais. Oui. J'espère qu'il est pas trop stable. On le sait.
Jusqu'à ce qu'il récupère son âme, qu'il est moins pire dans saison 7.
C'est ce que ça dit sur l'âme qui c'est un peu pas si intéressant, à mon avis.
C'est ça.
La question de l'âme est un peu...
Ça prend une âme pour être morale.
Moi, je l'ai perçu comme c'est ça qui active ta conscience. C'est de façon surnaturelle. Si tu l'as pas, là, ta zone de ta conscience dans ton cerveau est pas
fonctionnelle.
C'est vrai
qu'il part en quête pour l'avoir en même temps.
C'est exactement comment je me sens par rapport à Buffy. Hein? Faut que tu l'écoutes pour activer cette zone de conscience.
Oh, Jean-Michel essaye de rapper.
Vous m'avez vu. Je veux quand même vous remercier, Jean-Sébastien, Roxane. Merci, Sandrine, d'avoir exposé tous mes trucs d'animateur radiophonique. Et Hélène, merci énormément pour la conversation. Merci, chers auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. Non, mais sérieusement, merci beaucoup pour l'émission. J'ai eu gros plaisir.
Merci.
Oh.